France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Elle était donnée pour morte à l'automne quand les candidatures à la présidentielle s'empilaient, les courbes des sondages s'aplatissaient. La voilà qui avance vers les législatives en coalition et revendique une majorité à venir à l'Assemblée nationale. La gauche française aurait donc encore de la ressource et des choses à dire au pays. Mais de quelle gauche parle-t-on? C'est la question que pose notre invité. Bonjour Renaud Dely.
Bonjour Jérôme Cadet.
Vous êtes journaliste politique, vous avez travaillé ici même à France Inter, vous êtes aujourd'hui éditorialiste à France Info. Vous présentez également 28 minutes le samedi, c'est sur Arte, et votre dernier livre s'intitule « Anatomie d'une trahison » avec ce sous-titre « La gauche contre le progrès ». Vous y expliquez que la gauche, que l'on a sous les yeux aujourd'hui, a changé de nature et qu'elle a trahi les idéaux qui étaient les siens depuis des décennies, l'universalisme, le progrès. Elle aurait même trahi le peuple dont elle était le défenseur naturel et qu'elle ne connaît plus ou si peu, c'est ce que vous tentez de démontrer. Voilà, je pense, qui va faire réagir nos auditeurs qui peuvent vous interpeller, et ils le font déjà au 01 45 24 7000 ou via les réseaux sociaux et l'application France Inter. Renaud Dely, je voudrais commencer par interroger l'un des fondements du livre. Le progrès serait l'apanage de la gauche. Ah bon?
Alors, c'est pas...
la sécurité sociale, je vous laisse répondre.
Allez-y,
1945, le gouvernement de Gaulle, issu de la résistance, le ministère de la culture à partir de 1959, dont André Malraux était le premier titulaire, le droit à l'avortement, le droit de vote à 18 ans sous Valéry Giscard d'Estaing. Je donne pas d'exemple sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, mais je pourrais en donner. Il y a que la gauche pour croire au mouvement et au changement.
Alors justement, j'écris le contraire dans le livre. Il y a un passage où j'explique évidemment le progrès n'est pas l'apanage de la gauche, comme vous venez de le dire, ou le monopole de la gauche. Vous n'avez pas le monopole du progrès, en quelque sorte, comme aurait pu dire Valéry Giscard d'Estaing. En revanche, s'il y a eu évidemment des réformes dites de progrès, progressistes, notamment toutes celles que vous avez citées à l'instant, qui ont pu être portées par des majorités de droite et des majorités parlementaires de droite, en revanche, ce que j'essaye de raconter dans ce livre, c'est à quel point la gauche, on va dire depuis le XVIIIe siècle, depuis les Lumières, a arrimé son destin à cette notion de progrès. Cette notion de progrès qui passe à la fois par l'émancipation individuelle et puis par une forme de solidarité et d'universalisme, d'ailleurs, qui vont de pair. Et
davantage que la droite.
Ben, en tout cas, oui, forcément, idéologiquement, oui. Ça a pu se traduire par la réforme, encore une fois, que vous exposez, mais que vous avez expliqué, que vous avez cité à l'instant, à raison. Mais il y a une dimension beaucoup plus historique, beaucoup plus individuel d'une part dans l'engagement à droite, en gros, pour résumer, et puis aussi évidemment une dimension conservatrice qui est éminemment légitime, hein. Mais on va dire qu'entre le parti, historiquement, le parti qui se revendiquait du camp du progrès, on va dire du camp du mouvement, ça a toujours été plutôt, idéologiquement encore une fois, depuis le XVIIIe siècle et les Lumières, la gauche, et il y a eu à mon sens un vrai renversement justement en gros depuis le début du XXIe siècle, parce qu'on a vu apparaître une gauche sur le plan des idées assez craintive, assez défensive, assez frileuse, en particulier par rapport au réel et par rapport au mouvement qui effectivement a commencé à susciter des craintes et parfois des réflexes de repli qui peuvent être des replis identitaires, communautaires ou défensifs par rapport à une marge du monde que la gauche avait peut-être plus de difficultés à comprendre d'une part et puis à réguler, à corriger d'autre part.
Alors vous dites depuis le début du XXIe siècle, précisément sur cette question du moment de la bascule, à quel moment s'opère cette trahison, question de Gérard qui nous appelle de Choisy-le-Roi. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, alors ma question est la suivante. Est-ce que justement la trahison, la dérive du socialisme français n'a pas commencé avec la chute du gouvernement Mauroy et la nomination de Fabius, qui a privilégié, disons, les intérêts économiques et financiers et qui a complètement oublié le slogan du « changer la vie » et ça se termine actuellement par la situation face à la coalition unitaire des forces de gauche qui vient d'être mise en place grâce à Victor Mélenchon, par des positions des has-been, disons, du Parti Socialiste, les Le Foll, les Le Drey, etc., qui appellent à la division et même à l'opposition à cette coalition unitaire qui peut redonner évidemment beaucoup d'espoir à la gauche.
Merci à vous Gérard pour cette question. Est-ce que c'est le tournant de la rigueur finalement pour la trahison des socialistes? Je précise votre propos est beaucoup plus large que le simple PS, Renaud.
Alors, je crois pas que ce soit aussi simple que cela, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il n'y a pas un personnage qui doit être mis en cause, me semble-t-il. Je pense que la gauche a eu un problème. Il y a une vraie trahison, un vrai éloignement par rapport au réel. Et c'est d'ailleurs précisément très intéressant ce que disait Gérard à l'instant, dans la constitution de la coalition actuelle d'une gauche qui est quand même, rappelons-le, très mal en point, hein, 31% au premier tour de l'élection présidentielle, éliminé pour la seconde fois consécutive.
31%, c'est si on additionne tous les candidats
de gauche. Tous les candidats de gauche, hein. Une troisième défaite consécutive de Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour de la présidentielle, et puis une élimination, une absence de la gauche au deuxième tour de la présidentielle pour la seconde fois consécutive. Donc cette gauche, elle est actuellement minoritaire dans le pays. Mais ce qui est intéressant, quand notre auditeur Gérard évoque justement ce tournant de la rigueur de 83, c'est que on voit bien que le réflexe de l'accord d'appareil qui a été conclu là par les formations de gauche, et en clair d'ailleurs par l'OPA, qui est tactiquement formidablement réussi de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est à la fois le programme de la France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est désigné comme le futur Premier ministre en cas de cohabitation, et validé par l'ensemble des formations de gauche. Et puis les trois quarts des candidats dans les 577 circonscriptions seront des candidats insoumis. Donc cette OPA est formidablement réussie et elle vise effectivement à revenir dans l'esprit de cette gauche-là à 1981. Quand on regarde le programme qui a été donc qui est à la base de cet accord d'union, on retrouve quoi ? Le retour à la retraite à 60 ans pour tous, qui n'était pas d'ailleurs une proposition des socialistes ces dernières années. On retrouve une vague de nationalisation massive. Hein. Nationaliser les banques généralistes, c'est dans l'accord, EDF, Engie, les autoroutes, les aéroports, bref, on voit bien un retour à la situation de 1981. Le problème, c'est qu'on est en 2022. Donc le problème n'est pas d'avoir trahi ou abandonné la volonté de réforme, me semble-t-il, mais de ne pas avoir su accompagner, et évidemment pour le corriger toujours dans le sens de ce progrès, de cette émancipation individuelle d'une part et de ce progrès collectif d'autre part, le réel. Mais nier le réel et nier l'évolution du réel, ou nier par exemple l'Europe, la construction européenne, et c'est très important ce qu'il y a dans l'accord qui a été conclu aujourd'hui, hein, la possibilité de désobéir dans certaines circonstances aux traités européens avec les conséquences que ça entraînerait. Je ne pense pas que ce soit la voie
pour revenir
pour une gauche tournée vers l'avenir.
Au programme de l'Union populaire, puisque vous en parliez, un peu nostalgique, si je vous comprends bien, Renaud Dely, il y a quand même des propositions sur la transition écologique, notamment le terme de planification écologique, des mesures, terme qui a été repris d'ailleurs par Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours, le changement de constitution, tout ça, ce sont des réponses aux crises, par exemple, démocratiques et climatiques auxquelles on fait face.
Ce sont les deux aspects novateurs. Vous avez raison, Jérôme Cadet, le défi climatique, il est là, l'urgence climatique est là, et donc cette notion de transition, d'une part, qui passe maintenant à la planification, qui a d'ailleurs été récupérée par Emmanuel Macron, puisqu'il prétend que son futur Premier ministre sera précisément en charge de la planification écologique, ça vise à répondre très clairement à cette urgence. Comme sur le plan démocratique, on le voit bien, le système de la Ve République est fatigué, on va dire, et il faut trouver des moyens de faire respirer différemment la vie démocratique. Mais sur le plan social, sur le plan du rôle de l'État, et plus important me semble-t-il, sur le plan du rapport, on va dire, à la mondialisation, ça passe notamment par la construction européenne que j'évoquais à l'instant, il me semble que la gauche continue dans cette voie que j'essaye de décrire dans ce livre, c'est-à-dire d'un grand repli sur soi, d'un grand retour en arrière. La mondialisation, par exemple, elle est, en règle générale, on va dire aujourd'hui, par toute une frange de la gauche, démonisée, diabolisée, comme si c'était un mal, comme si c'était un diable, comme si elle était maléfique par essence, par nature. Bien sûr que non. La mondialisation, elle est ce que les politiques en font, donc elle peut être aussi la meilleure des choses. Il suffit de voir à quel point d'ailleurs
mais
ce qu'on appelle...
Mais qui tient un discours positif sur la mondialisation parmi les politiques, à gauche comme à droite?
Justement, justement.
Qui va dire que la mondialisation a fait sortir des millions de gens de la misère,
et pourtant,
par
c'est
exemple
vrai.
En Asie? C'est vrai.
Et pourtant,
vous,
c'est vrai.
Vous l'entendez
personne,
dans le débat public.
Mais en tout cas, pour ce qui est de la gauche, parce que c'est...
aucun parti ne tient ce propos-là.
Mais justement, vous appuyez exactement mon propos, Jean-Luc Cadet, c'est exactement ce grand repli défensif de la gauche, pour s'en tenir à l'objet de mon livre, que je pointe. C'est-à-dire que si jamais vous dites aujourd'hui que la mondialisation peut être positive, vous êtes renvoyé immédiatement à la caricature jadis tenue les propos tenus par Alain Minc de la fameuse mondialisation heureuse. C'est aussi, j'allais dire, on va dire stupide, ce serait méchant, mais c'est aussi décalé par rapport à elle que de dire qu'elle est par nature maléfique. Encore une fois, c'est aux politiques de s'en saisir et non pas de la diaboliser comme le fait, hélas, aujourd'hui, une grande partie de la gauche française.
Marie nous appelle de Perpignan. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, moi ma contribution est la suivante. Moi je pense que la gauche a toujours été élue sur des mesures radicales. En 81, l'abolition de la peine de mort, la retraite à 60 ans, la cinquième semaine. En 2012, mon ennemi c'est la finance, l'engagement de renégociation du traité européen. Bon, malheureusement, comme chacun sait, M. Hollande n'a pas du tout respecté ses engagements et a détruit quand même l'idée même de la gauche pendant de longues années. Et là, actuellement, j'ai l'impression de me retrouver dans l'ambiance de 2005, lorsqu'il y avait le référendum sur le traité européen, et où je vois les mêmes intervenants sur tous les plateaux sans contradicteur qui fustige là actuellement cette coalition de la gauche. Eh ben, écoutez, moi j'ai envie d'y croire. Moi je pense qu'il y a des idées importantes. Il y a surtout un espoir pour les jeunes et pour les gens qui sont en très grande difficulté, parce que je ne compte pas du tout sur tous les autres. Tous les autres partis politiques pour pouvoir inverser le cours du sort de toutes les personnes qui sont en grande difficulté et sur l'avenir des jeunes qui est un petit peu en berne.
Merci
voilà.
À vous Marie pour votre témoignage, Renaud Dely. Plus de radicalité, c'est comme ça que la gauche gagne, nous dit Marie.
Et souvent c'est comme ça qu'elle déçoit au pouvoir, on l'a vu effectivement dans les exemples qui ont été cités à l'instant par Marie, c'est-à-dire qu'on peut gagner sur des slogans ou sur des mesures radicales sans se préoccuper forcément du réel ou du financement de ces mesures. C'est bien le problème auquel se sont heurtés les socialistes et même l'Union de la gauche en 1981, comme en partie en 1997 ou en 2012. Et ce qui est radicalement nouveau, effectivement, mais je ne suis pas sûr que ce soit un gage de croissance de la gauche, c'est que pour la première fois depuis 40 ans, depuis le milieu des années 70, c'est aujourd'hui le parti de la gauche la plus radicale qui prend le leadership et même quasiment le monopole, l'hégémonie de la gauche. Or, jusqu'à présent, je ne dis pas que ça ne peut pas se produire, mais jusqu'à présent, dans l'histoire de France sous la Ve République, et même avant, quand la gauche est arrivée au pouvoir, c'était à chaque fois que lorsque c'était le parti modéré, on va dire réformiste, qui tenait les rênes de cette alliance, qui permettait de rassembler plus large. C'est pas le cas, en tout cas, de la configuration qui se présente pour ces législatives.
Parmi les renoncements que vous dénoncez, Renaud Dely, il y a le renoncement au peuple, à la laïcité et à l'universalisme d'une gauche qui aurait succombé au communautarisme. Vous faites de Jean-Luc Mélenchon l'un des symboles de cette conversion. Vous écrivez, c'est sans nul doute l'évolution de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui s'avère la plus spectaculaire, la plus révélatrice de la dérive générale de la gauche. À l'origine fervent et incontestable défenseur de la laïcité, le chef de file des insoumis s'est peu à peu rallié à une vision communautariste de la société. Pourquoi, selon vous, est-ce que c'est par conviction ou est-ce que c'est par clientélisme au fond ?
Je pense qu'il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a aussi par bon sentiment, si j'ose dire. Jean-Luc Mélenchon est un authentique militant antiraciste, évidemment, et il a eu le sentiment que parfois, effectivement, évidemment, l'extrême droite, elle stigmatise, elle pointe les musulmans, et qu'il a cru penser peut-être qu'il fallait se rallier à une forme de communautarisme, justement, par antiracisme. Donc il y a à la fois de la naïveté, il y a aussi l'électoralisme sans aucun doute dans certaines régions du pays. Et en tout cas, il me semble que cette évolution, il suffit de regarder les différents discours qu'il a tenus au fil de ces trois campagnes présidentielles. Le discours de 2022 n'est pas du tout le discours de 2012. Je peux même renvoyer à la tribune qu'il co-signait avec Manuel Valls et Vincent Peillon, publiée en 2003 dans le Nouvel Obs, où il stigmatisait, il dénonçait la présence de Tariq Ramadan au Forum Social Européen de Saint-Denis à l'époque. Et pendant très longtemps, pendant l'essentiel d'ailleurs de sa très longue carrière politique, Jean-Luc Mélenchon fut un fervent défenseur de la laïcité. Force est de constater qu'il a changé de position sur ce thème qui est ô combien important et même identitaire quant au message, justement, et au contenu, à l'ADN même de ce qu'est la gauche.
Cette analyse dans ce livre passionnant et stimulant pour la réflexion, et en plein dans l'actualité, ça tombe bien, Renaud Dely, Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci,
merci beaucoup
d'être passé dans ce 13-14.